Donc tu veux quoi? De l'eau, du jus d'orange?
Une orangina.
Ah, ça, j'ai pas d'orangina, non. De l'eau, du jus d'orange, hein?
C'est quoi?
Ah, ça, sont les comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Hein? Tu vois le jaune, là? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Ah, oh, bon, enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
Bah... Hein?
Ah! Ça se complique.
Et oui, ça se complique. Bonjour à toutes et à tous, vous aussi, qui avez sûrement une tête à aimer les marmottes, comme nous tous, évidemment, autour de cette table avec Ludovic Asselot et Lucas Vaillant à la technique, et assisté de Caroline Debray, je n'oublierai pas Albert Hook, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Alors oui, on va parler de cette fête de la nature aujourd'hui. On va parler de marmottes, vous l'avez très très bien compris. Et puis aussi dans l'actualité, nous avons en fait les grottes de Lascaux qui vont arriver sur Paris. Voilà, et rassurez-vous, les animaux seront donc très très bien traités. Et puis c'est aussi toujours ce moment délicieux, vous avez toujours du rififi entre le monde de la tauromachie et donc les opposants. Et la tentation de la récupération a toujours animé les hommes. Bon, alors c'est sûr, jusqu'à présent, dans le recyclage des déchets, ça ne s'est traduit que relativement modestement, d'où la notion d'économie circulaire indispensable mais qui réinvente l'eau tiède. En revanche, en matière de réécriture de l'histoire, en bon français on parle désormais de storytelling, là faut bien reconnaître que nous autres modernes sommes à la pointe de l'innovation. Ouais ouais ouais, et ce ne sont pas les fans de la corrida qui me contrediront. Les taurins, obsédés par l'idée d'arriver à donner à la corrida ce qu'ils pensent être une légitimité fondée sur l'ancienneté, n'hésitent pas à mettre en avant les arguments les plus grotesques. Tenez, quand les aficionados poètes ont vu le célèbre taureau de Lascaux peint sur une paroi de la grotte il y a 15 000 ans, eh ben ça a été plus fort qu'eux. Eh oui, il a fallu qu'ils se l'approprient avec, entre autres, une grande affiche sur les arènes de Nîmes, la tauromachie, patrimoine culturel français. L'occasion était trop belle et le message prêt à l'emploi. Je résume. Si nos lointains ancêtres magdaléniens dessinaient des aurochs sur les parois de leurs cavernes, c'est parce qu'ils rêvaient secrètement de courir déguisés en clowns phosphorescents après ces bestiaux pour leur planter dans les flancs les banderilles qui n'avaient pas été encore inventées. Bah si, puisque je vous l'affirme. C'est un peu comme si en inventant la roue, les Mésopotamiens s'étaient dit « Tiens, ça ferait un chouette supplice qui pourrait attirer du monde sur les places publiques les jours de marché. » Bah ouais. Bien évidemment, l'image de ce taureau surgi du fond des âges n'appartient à personne. Mais qu'elle serve de propagande afin d'amener le grand public à croire que la corrida est née au paléolithique, c'est peut-être tirer un peu fort sur la muleta. D'autant que Montignac, ville qui recèle les fameuses fresques de Lascaux, est tout de même l'une des rares municipalités de France à s'être ouvertement déclarée anti-corrida. Il fallait donc oser. Un tel grand écart autant temporel que sémantique, les amoureux de la mise à mort spectacle en costume de paillettes l'ont fait. Cet exemple illustre que notre époque ne peut plus se passer de la communication, l'essentiel consistant à occuper le terrain et à faire feu de tout bois. De là à songer que la communication s'apparente volontiers à la bêtise à front de taureau, il n'y a sans doute pas l'ombre d'une queue de vache.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Bah oui, les petits taureaux, ils ont le droit de participer à la fête de la nature sans forcément avoir des banderilles dans les fesses. Bah oui, c'est comme ça dans cette émission. Et fête de la nature, et bah nous recevons avec grand plaisir le président de cette fête de la nature, qui est aussi quand même le vice-président de l'UICN aujourd'hui. Donc une fondation, bah ça, on va en parler de cette union aussi. Donc François Le Tourneux, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Corrida, on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais en revanche, ce qui nous intéresse bien, c'est que tout ce week-end, et on l'espère tout au long de l'année, on va avoir à peu près 800 000 personnes qui vont donc se réunir partout en France. Il y a plus de 5 000 manifestations qui sont gratuites. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Et d'autant plus qu'il y a eu un sondage très intéressant que vous retrouverez dans cet excellent numéro de Terre Sauvage du mois de mai. Sondage donc a été réalisé sur les Français et la nature. Que peut-on dire?
Ce sondage nous a beaucoup surpris. Nous a beaucoup surpris parce que nous avions posé une question très simple qui était qu'est-ce que vous préférez? Pensez-vous qu'il est préférable de favoriser le développement économique et les transports dans votre région quitte à menacer la nature? Ou préférez-vous l'autre formule? Eh bien, 83% des sondés préfèrent l'autre formule qui est « Il est préférable de préserver la nature, quitte à freiner le développement économique et le développement des transports dans votre région. » Et les 25-34 ans sont encore plus affirmatifs que les autres, et les catégories socio-professionnelles les moins favorisées sont elles aussi encore plus positives que les autres. Alors, ça nous a vraiment fait plaisir, parce que je pense qu'un certain nombre de responsables économiques et politiques sont un petit peu en retard sur l'opinion publique.
Oui, ils ont toujours été par rapport donc, à ce type de sujet. Donc, ça veut donc dire que les 25-34 ans qui sont nés à l'heure à la fois du réchauffement climatique, parce qu'ils sont nés véritablement avec ça, et aussi avec la perte de biodiversité, sont conscients d'une responsabilité donc différente. Et ça, c'est quand même pour le moment bien. Enfin, c'est...
Oui, alors il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on est intéressé par les réponses. Les deux tiers des Français estiment qu'ils ne connaissent plus bien les plantes, les animaux et les milieux naturels dans lesquels ils se promènent, et la même proportion aurait envie de les connaître mieux.
Oui.
Les Français des villes trouvent que ça ne vous surprendra pas, qu'ils n'ont pas assez de nature. Les Français de la campagne trouvent que ça va pas mal. La plupart des Français estiment que la nature est un lieu accueillant, un lieu de ressourcement, un lieu de mise en forme, et 12% seulement en ont un peu peur ou estiment qu'elle est inhospitalière. Bref, ce sondage il est très 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 encourageant pour nous.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire que, d'un côté, on a davantage, enfin, a priori, de sagesse les uns les autres en vieillissant. On est plus, quand même, à l'écoute de cette nature qui nécessite une certaine lenteur par rapport à cette génération, donc, qui va très vite, enfin, qui va configurer nos smartphones sans aucune difficulté. Voilà. Et il y a une demande des deux côtés.
Voilà, ce qu'on voit dans toutes les manifestations de la fête de la nature, c'est une occasion, en effet, pour les plus anciens de passer un message à des tout jeunes qui ont beaucoup de demandes. Vous savez que les questions que les enfants posent sur la nature sont innombrables, et les associations qui s'en occupent le savent bien, les connaître et protéger la nature, ou des associations comme ça le savent bien. Et c'est un domaine dans lequel nous autres vieux, nous avons une petite chance d'exister encore, parce que comme vous le disiez, Denis, lorsqu'il s'agit de configurer son iPhone, il faut qu'on demande l'aide des savants que sont nos petits-enfants. Oui. Donc nous aimons bien, à la fête de la nature, insister sur le fait que c'est une occasion d'échange entre générations, d'échange à l'intérieur d'une famille. C'est d'ailleurs si vrai que nous sommes très très fiers cette année encore de savoir que dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires, la fête de la nature sera l'occasion pour les détenus de bénéficier pendant une journée de la présence de leur famille sur une sortie en permission d'une journée.
Alors, ce que je vous propose, c'est parce qu'on va revenir évidemment sur cette fête de la nature et on va poursuivre, mais Frédéric Denry, donc, est avec nous, qui intervient régulièrement dans cette émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents comme les enfants, on va dire, ont le sentiment que les problèmes sont énormes et les dépassent. Et à côté de ça, l'écologie est le domaine par excellence où chacun à son niveau peut faire changer les choses. Et là, on a beaucoup d'illustrations. Et un changement très important, ce sont donc les sciences participatives que l'on connaît maintenant aujourd'hui. On les a beaucoup moulinées, on les a beaucoup soutenues dans cette émission et aussi globalement sur France Inter. Donc on voit une évolution très très forte, Frédéric.
Oui, alors les sciences, bonjour à tous, bonjour Denis. Les sciences participatives, tout bêtement, c'est les ornithologues qui cochent des oiseaux, et cette science est devenue participative à partir du moment où les ornithologues ont envoyé leurs observations à des scientifiques professionnels au muséum par exemple. Et de fil en aiguille, le Muséum National d'Histoire Naturelle a créé des observatoires, que ce soit des oiseaux de jardin, des pollinisateurs, des escargots, des bourdons,
des coquelicots,
voilà. Pour deux raisons. Un, il faut bien connaître, avoir une idée de ce qu'est la nature en France, si on en a encore une idée partielle. Et puis, parce que le changement climatique bouleverse les écosystèmes. Et par exemple, vous parlez des coquelicots, on s'aperçoit que les coquelicots poussent de plus en plus tôt dans toutes les régions. Et donc, ces coquelicots deviennent un indicateur du changement climatique. Et le muséum a besoin d'agréger des données, de récupérer des données. Donc, on fait appel à la population. Et donc, il y a un collectif national des sciences participatives. Il y a un site web. J'invite nos auditrices et auditeurs à s'y rendre. Il y a plusieurs centaines d'associations, de mouvements citoyens qui se proposent de faire des observations. J'ai noté à mon grand bonheur qu'il y a maintenant des plongeurs qui auparavant étaient fort peu naturalistes et qui maintenant entreprennent de dénombrer quelques espèces. Et ça me réjouit plutôt.
Je me retourner vers l'ancien président, mais toujours vice-président de l'UICN. Rappelez-nous quand même ce qu'est l'UICN, François Letourneau, en une phrase.
L'UICN, c'est la seule grande organisation mondiale en matière de nature, de biodiversité et plus généralement d'environnement qui est un statut de quasi-ONG aux Nations Unies, qui soit observateur dans tout. C'est cette organisation qui regroupe 100 gouvernements, une centaine de gouvernements, 200 agences gouvernementales au niveau mondial et un millier d'ONG qui s'appuie sur un réseau de 10 000 experts. C'est cette organisation qui, par exemple, réalise la liste rouge des espèces menacées, qui fait chaque fois florès dans les médias, parce que ça intéresse tout le monde, et qui fait également, par exemple, le classement des aires protégées du monde en fonction de la qualité de leur protection.
Alors, que dire justement sur ces espèces? Parce que donc, on voit à la fois des effondrements d'un côté, on va dire, d'oiseaux sur les zones à pesticides, là maintenant on le sait nettement, fortement, et puis bon, il y a des endroits où on va avoir le tigre qui parle, l'éléphant aussi parce qu'il est trop braconné, etc. Donc, on a bien compris que ceci n'était pas uniforme. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous dire sur ce tissu, cette biodiversité qui s'effiloche, ou bien au contraire, qui est en train de regagner de la partie?
Si vous le voulez, Denis, moi j'ai envie de partir de notre situation de Français, enfin Européens, avec également des parties de notre pays qui sont outre-mer.
Oui.
Dans notre pays...
On va le rappeler, hein, c'est vraiment dans l'outre-mer que l'on a le maximum
alors,
de biodiversité.
La situation de l'outre-mer, elle se rapproche par certains côtés du reste du monde, mais... En France métropolitaine, notre principale responsabilité en matière d'environnement, elle tient au fait que nous sommes riches et que nous mettons sous pression les pays pauvres dans lesquels il y a de la biodiversité. Si les orang-outans disparaissent de Bornéo, c'est parce que nous aimons l'huile de palme
et
que nous n'hésitons pas à en acheter. Si les requins vont mal, c'est parce que des pays très riches d'Asie du Sud-Est se nourrissent de leurs ailerons de façon de plus en plus marquée. Si les éléphants disparaissent, c'est à cause du trafic de l'ivoire, etc. Et donc, pour nous, Français, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on réfléchisse au fait que la sobriété heureuse, c'est aussi le moyen d'épargner les richesses des pays du Sud. Alors, le deuxième élément chez nous, c'est qu'il ne disparaît pas d'espèces de France. À part quelques exemples rares, il ne disparaît pas d'espèces de France. Et au contraire, il en revient. Il en revient naturellement, c'est le cas du loup. Il en revient parce qu'on les remet. C'est le cas, par exemple, du bouquetin des Pyrénées, qui vient d'être réintroduit dans les Pyrénées. Il avait disparu il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, même pas quelques dizaines d'années. Et on s'est vite dépêché de le réintroduire pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y avait eu une perte. Alors, l'Europe vient de faire une étude absolument passionnante. Elle a étudié l'évolution du statut de 144 espèces d'oiseaux. C'est un peu moins que la moitié des espèces d'oiseaux nicheurs d'Europe, mais c'est déjà significatif. Et à notre grande surprise, les espèces rares et menacées ont vu en général leurs effectifs multipliés par 3 ou 4. C'est-à-dire que les efforts des protecteurs de la nature, les actions législatives de la France et de l'Europe ont permis que les effectifs de la grue cendrée, de la cigogne, du busard, etc. augmentent beaucoup. En revanche, des oiseaux qui sont des oiseaux familiers, comme l'alouette, les tourneaux, le moineau, eux, ils s'effondrent. Et il y a 421 millions d'oiseaux en moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans en Europe. Sur ces 144 espèces. Alors on voit bien que la question, elle est certainement dans les espèces très menacées, mais elle est au moins autant dans le fait que le tissu vivant de la planète, dont parlait notre cher ami Robert Barbeau, ce tissu vivant de la planète, il s'effrite, il s'érode, et ça c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous peut arranger les choses s'il change de comportement.
Voilà, donc ça veut dire, c'est maille par maille que l'on peut reprendre ce fameux pull-over. Avant de passer donc à nos merveilleuses marmottes, je vous renvoie sur deux ouvrages. Alors, d'abord, celui que vous avez signé avec Nathalie Fontrelle, François Le Tourneux, Chronique du vivant, les aventures de la biodiversité. On vous retrouve dans Planète Environnement tous les dimanches matins à 7h55. Et puis aussi, Au secours, mes petits-enfants débarquent. Alors ça, c'est très bien parce que c'est un guide de survie à l'usage des grands-parents. Comment faire découvrir la nature aux enfants? Voyons parler de liens intergénérationnels. C'est aux éditions Plume de Carotte.
Dont la préface est signée par un certain Chessou, Denis, non?
Oui, tout à fait, parce que je soutiens absolument ce type d'initiative. voilà, donc, mais c'est sur un texte de Louis Espinassous et de Frédéric Lisac. Francis Cabrel, personne n'a rien contre, hein?
Non, vous non plus
qui nous écoutez. Bon, allons, on y va.
Y'a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. on va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. On tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs. C'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester.
Rester, rester, rester.
On n'est même pas pressé.
Rester, rester, rester.
Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester.
Rester, rester, rester.
On est loin d'être lassé.
Rester, rester, rester.
Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé.
Rester, rester, rester.
Pour tous ceux qu'on a blessés, qu'on aurait dû embrasser, autant tout recommencer. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester.
Le dernier Francis Cabrel, après 7 ans, parti pour rester, vendu avec un caillou. Francis Cabrel, c'est facile. D'accord. Non, on l'aime, c'est comme ça. Et puis vous aimez les marmottes. Et ben, vous allez voir, parce que François Letourneux, vous qui êtes un homme des Alpes aussi, hein, vous connaissez bien la marmotte.
Oui, je monte la semaine prochaine les voir faire le grand ménage et sortir le foin les ordures de leur terrier fraîchement ouvert dans la neige.
Et ben voilà. Et ben moi, je les ai rencontrés un tout petit peu avant, mais c'était un peu plus basse que chez vous dans les Alpes de Haute-Provence.
Bah alors mes filles.
Alors où sont-elles, la vos marmottes, cher Christian?
Nous sommes là, au niveau d'une des familles de la colonie, dont le périmètre se définit à hauteur des fils électriques qui commençaient l'alpage, le téléski que nous avons en face, la ligne d'arbres qui nous passe juste au-dessus, et puis qui passe à ces arbres qui se raccordent à ce canon à neige que nous avons.
Donc elles savent très bien où elles sont.
Voilà, elles savent parfaitement où elles sont.
C'est leur territoire.
Là, en ce moment, il n'y a pas de problème, elles sont en train de faire ce qu'on appelle le lézard, puisqu'on arrive à l'heure la plus importante pour elles, c'est-à-dire tout simplement de faire la graisse noire,
oui.
C'est-à-dire le fainéantisme.
Oui, hein, mais enfin, la graisse noire, elle est quand même fondamentale. Hein.
Ah, la graisse noire, elle est fondamentale, puisque c'est elle qui va leur permettre
de passer l'hiver
dans 6 mois de sommeil. Hein. Ce qu'on appelle un sommeil d'hibernation. Hein. Alors, attention, hein, on va s'avancer un petit peu, parce qu'on a un peu les branches qui nous...
Voilà, ça y est, on s'approche. Respirer. Pas de pic de pollution dans les Alpes de Haute-Provence, en tout cas pas encore. Le département est superbe. Nous grimpons la Seine-les-Alpes et nous arrivons vers Chabanon, à Chabanon. Alors autrefois, bah, c'était des cabanes. Maintenant, c'est une petite station de ski familiale. Et au-dessus, bah, il y a l'homme qui parle, qui s'appelle Christian Rias. Christian Rias, c'est un ancien chercheur. Il a travaillé quand même au CNRS. Et puis, bah, c'est un amoureux. On va comprendre comment il est venu, comment il a aimé donc ces fameuses marmottes. L'histoire de la marmotte, quand même. Je vais vous faire très court. Si vous voulez, on va faire une petite rapide cours d'histoire sur le nom, l'origine du nom de la marmotte. Napoléon III, donc, avec les deux Savoies qui étaient piémontaises, donc, à l'époque, elles étaient donc italiennes, 1860, bon, donc, il met la pâtée au duc Amédée de Savoie. Très bien. Les ducs de Savoie ont dû payer la guerre de leur chef. Comme la Grèce, ils se sont retrouvés malheureusement dans la misère, le peuple était tailladé et devenu pauvre, bah les Savoyards ont développé une activité de ramonage. Ce sont, sans jeu de mots, les enfants qui sont allés au charbon, et eux, c'était les marmots. Voilà, du côté, on le sait, de Lyon, bah vous avez les gaunes, pour dire les enfants, les pitchous dans le midi, et bah eux, c'était les marmots. Et pour se vendre, pour attirer l'attention, ils capturaient des marmottes à la sortie du printemps, puis donc ils les trimbalaient avec eux. Et donc c'est comme ça qu'on a baptisé le compagnon du marmot, la fameuse marmotte. Voilà. Et avant, oui, alors ça peut se discuter, mais quand même, l'histoire, elle est très très jolie. Et avant, on disait Mus alpina, on disait le rat des montagnes. Mais en fait, elle fait pas du tout partie de la famille des rats. Non. Et donc, cette marmotte, on va donc la découvrir avec cette vue. Donc, je vous rappelle, à Chabanon, dans les Alpes de Haute-Provence, vous avez une vue sur le massif des Écrins, sur la Meije. Et puis, tenez, on se retourne un petit peu. Vous avez le Mont Aiguille dans le Vercors, qui est, Christian Rias, l'ancêtre de l'alpinisme.
C'est vraiment ce qu'on appelle la première escalade reconnue.
Et nous sommes la même année où Christophe Colomb va
découvrir l'Amérique.
1492.
Mais c'est l'Amérique qui a pris l'ampleur sur l'escalade. Ah oui. En réalité, cette escalade a été provoquée par une petite idée. Charles II avait l'impression qu'au sommet de ce mont Aiguille, il y avait une bergère qui étendait des draps, puisque très souvent, il y avait encore de la neige et il pensait que c'était cette bergère qui étendait la blancheur.
D'accord.
Et il a donné donc ordre à Antoine de Ville de faire l'escalade pour aller chercher cette bergère qui en réalité il n'y en avait pas puisque c'était tout simplement et uniquement des plaques de neige.
Alors Christian Rias, bon, vous avez cette passion, on le comprend, parce que au départ vous êtes herpétologue, vous êtes aussi.
Oui, là j'étais plus voilà.
Entomologiste. Voilà. Et alors comment c'est venu ? Je veux dire, comment vous êtes pris d'affection ? Oui, enfin, véritablement d'affection et aussi d'intérêt, hein, on le comprend bien, pour cette marmotte.
Alors le gros problème, c'est que lorsque je faisais mes recherches sur les serpents, les batraciens et puis les insectes, je passais plusieurs temps, donc de toute façon en montagne, et bien j'avais ce petit animal qui de temps en temps, vous voyez, hein, comme il est joueur, et bien venait me tenir compagnie, puis j'en suis tombé amoureux.
D'accord. Donc, et c'est là que ça peut enfin, un peu s'apprivoiser.
Non, il y a aucun animal qui s'apprivoise. Ouais. Hein, ils sont sauvages, ils restent sauvages. C'est une familiarité qui se fait entre lui et moi. Il s'est passé une chose, c'est que cette familiarité que j'ai sur cet ensemble...
T'es en train de bouffer votre sac.
Ouais, t'es en train de le manger, voilà, ben elle se dit tant qu'à faire. Elle se venge, hein, parce que je suis pas à côté. Je suis à une petite distance qui lui plaît pas. Hein. Marrant, voilà, ça. Si j'étais plus près, elle serait en train de... Elle serait sur les genoux, pratiquement.
Ah oui.
Voilà. Donc
c'est
le problème...
parce que vous vous occupez pas d'elle, en gros.
Alors, je m'occupe de l'ensemble de la colonie. Ouais. Et pour pouvoir m'occuper d'elle, je suis marqué par la dominante.
C'est ça.
Lorsqu'elle sort de son hibernation, elle va marquer ses sujets.
Oui.
Elle va comptabiliser le nombre de ses sujets. Et en fonction du nombre de ses sujets, elle va évaluer la mortalité de sa colonie.
C'est ça.
Et elle va remplacer par les naissances.
Bon.
La femelle est dotée de glandes qui contiennent un muscle, qui est typique à chaque colonie. Et elle va se frotter contre ses sujets. Et moi, je me suis fait marquer par la dominante, mais je me suis fait marquer après l'accouplement. Si je m'étais fait marquer avant, elle m'aurait comptabilisé et il y aurait eu une naissance de moins. Aujourd'hui, j'ai l'odeur de la colonie. Comme on peut constater, quoi qu'il en soit, ben regardez, elles sont autour de nous, elles ne bougent pas. Elles sont à ma voix, hein, puisqu'elles ont l'habitude de me voir, elles ont l'habitude de m'entendre. Et elles sont là, toutes les trois, elles patientent, elles lézardent, elles font...
C'est la dominante qui va donc pouvoir être fécondée ou bien ce sont toutes
Non, c'est la dominante qui est la patronne.
D'accord.
C'est elle qui va être fécondable.
Okay.
C'est elle qui va décider. Et elle va, dans le cas où il n'y a pas suffisamment, elle n'est pas en mesure de faire le nombre de bébés remplaçant la mortalité, elle va autoriser son mâle dominant à commettre l'adultère.
Ok, mais simplement sur autorisation.
Mais simplement sur autorisation.
Et alors, les jeunes femelles, donc, plus tard, devront partir pour fonder une autre colonie ?
Alors, ça se passe pas du tout comme ça.
Ouais.
ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'elles ont trop de mâles, lorsque la dominante estime qu'elle a trop de mâles dans la colonie, elle va chasser un mâle. Mais un mâle, on va dire, il n'est pas couillon, en excusant le mot, il sait très bien que s'il part, il va falloir qu'il parte avec une femelle parce qu'il a peut-être les chances de créer lui-même une colonie.
Ah, c'est lui qui va la créer alors.
Alors, quand même. En réalité, il va courtiser une de ses sœurs ou autre, hein, sûr, parce que c'est parti d'une même souche. Regardez, elles sont en train d'attendre tranquillement, là, hein, elles sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ?
Non, il cause.
Ils causent. Mais elles le savent, hein, tout à fait. Hein, elles savent exactement. Regardez, elles orientent la voix en conséquence. Donc, le mâle va courtiser une femelle. Et il sait qu'en partant avec cette femelle, lorsqu'il sortira du territoire, il aura la chance de créer un territoire. Parce que c'est la femelle qui va créer le territoire. Elle deviendra dominante. Alors, donc, à partir de cet instant, elle va lui taper sur l'épaule et elle va lui dire, maintenant, tu t'écrases, la patronne, c'est moi.
D'accord.
Et à partir de là, va partir la souche et la colonie.
Vous respirez marmotte, ouais. Vous aimez les marmottes.
Je pue marmotte.
C'est très bien, on est à la radio, donc on n'a pas encore la radio olfactive, c'est formidable.
Exactement.
Et alors, vous les connaissez bien, elles vous connaissent aussi. Juste quand même quelques mots sur la bête. Alors, nous avons quand même des yeux très intéressants. Hein.
Elle a des yeux qui ne bougent absolument pas, qui sont fixes.
Oui.
Seules les paupières clignent. Et c'est un animal qui a un angle de vision de l'ordre de 300 degrés.
Ça va.
Phénoménal, puisque nous avons tout juste 160.
Oui.
Donc autant dire que lorsque nous sommes montés, il y avait un moment qu'elle nous avait repérés.
Ouais.
Donc c'est pour ça que quand je dis aux gens que j'emmène, faites-vous voir, c'est parce qu'elles vont pouvoir nous analyser, puis savoir d'où vient le danger et informer leurs congénères. Donc elles ont ces yeux qui sont très haut placés, qui leur permettent de voir aussi bien dessus que sur les côtés, en haut comme en bas.
Bon, la vue, elle est très bonne.
La vue, elle est très bonne.
Alors maintenant, quand même intéressons-nous à l'odorat. Terrible ou pas terrible ?
Alors l'odorat, par contre, il est loin d'être terrible.
Ah oui.
Parce qu'elle n'en a pas. En réalité, si, elle a de l'odorat, quoi qu'il en soit, mais il est limité, il est très limité puisqu'il est à 6 cm.
Ah oui.
C'est pour ça que lorsque vous la voyez se déplacer, elle est obligée de mettre le nez par terre, parce que l'herbe qu'elle mange, qui est une herbe très spécifique, qui ne contient pas de glucose, a une odeur spécifique.
Oui.
Et c'est cette odeur spécifique qu'elle va pouvoir définir. D'accord. Tout simplement. De la même façon que lorsque elles se rendent visite, elles sont obligées de se mettre le nez l'une ou l'autre pour voir si elles sont de la même colonie.
Okay.
Parce que dans le cas contraire, c'est la pâtée.
Bon. nous sommes à la radio. Le son est extrêmement important chez la marmotte.
Alors, chez la marmotte, elle a des oreilles qui sont hyper performantes.
Ouais.
Puisqu'elle est capable de percevoir à 2000 mètres de distance.
D'accord. Nous, ces petits bras, je crois que c'est 10% à peine. Enfin...
Ouais, 190 mètres.
Ah ouais. Bon, tout ceci n'est pas gratuit, parce que bien évidemment, il s'agit quand même d'aller déjouer le prédateur. Et puis, nous avons ces pattes. Alors, les pattes, les griffes. Hein, on voit leur habitat, elles ne sont pas en appartement en bas.
Non,
donc,
non. Eh bien, ces pattes leur permettent de creuser, compte tenu des griffes qu'elles ont, hein, puisque les deux pattes de devant sont appelées les mains.
Ah, ce sont des mains.
D'accord. Ce sont des mains.
Ouais.
Et des pattes derrière qui sont beaucoup plus importantes, qu'on appelle les pelles.
Voilà.
Donc les pattes de devant sont les mains. Et la particularité de ces mains, c'est qu'on peut leur prendre le pouls de la même façon qu'on le prend chez nous.
D'accord.
Et les pattes de derrière sont plus larges, qui elles ont 5 doigts, sont appelées les pelles, c'est-à-dire qu'elles vont repousser avec les pattes de derrière la terre. On creuse devant, puisque cet animal creuse à peu près 4 mètres par jour, et on repousse avec les pattes de derrière, on rejette la terre qu'on va mettre en terrassette devant.
D'accord.
Et puis lorsque la terrassette est faite, eh bien, très souvent, on pousse un peu avec les pattes, on nivelle, on met un peu avec les pattes de derrière, un peu avec les pattes de devant, on va mettre à niveau pour faire la séance de bronzage. C'est-à-dire, hein, on fait la graisse noire, on se planque et on attend.
Alors, on va quand même faire tout de suite maintenant la différence entre l'hivernation et l'hibernation. Et là, nous sommes face à des animaux qui hibernent.
Alors, la différence entre l'hibernation et l'hivernation, ce sont deux mots complètement différents. Dans l'hivernation, ce sont des animaux qui vont rentrer dans un sommeil léthargique, qui vont légèrement rentrer leur respiration, vont diminuer leur pulsation cardiaque, vont s'endormir dans ce qu'on appelle un sommeil léthargique, qui va être durant la totalité de l'hiver. Dans ces types d'animaux, nous avons les ours, les loirs, les mustélidés, les batraciens, un reptile.
L'hibernation, là, c'est différent.
L'hibernation, c'est un sommeil fragmenté. C'est-à-dire qu'on va rentrer non plus dans un sommeil léthargique, mais on va tomber dans un... On va dire qu'elles sont dans leur état pré-mortem et post-mortem. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont vivantes en étant mortes. Elles vont tomber leur température à l'extrême, puisqu'elles vont descendre à 11 degrés de température, contre 36,8 actuellement. Le cœur qui est entre 70 et 72 va passer à 4 à la minute.
Oui.
Et la respiration à 5,6 à la minute. Nous avons, nous, un filtre qui est constamment actif.
Oui.
Nous sommes actifs, donc il se purge. Elle, par contre, dans cet état pré-mortem et post-mortem, ce filtre ne peut pas se vider. Donc, elles sont obligées régulièrement de taper dans leur réserve de graisse noire pour remonter leur température, aller aux toilettes, et lorsque elles ont uriné et fait leurs besoins, enlever les toxines, elles redescendent leur température. C'est le phénomène d'hibernation, c'est le sommeil fragmenté.
Mais alors, quand elles sont malades, bon, elles ont peut-être comme nous de la fièvre. Alors, la fièvre, c'est aussi un excellent indicateur, évidemment, de maladie, on le sait.
Bien sûr.
Ça veut dire aussi, vous êtes fatigué, vous devez vous arrêter, donc vous devez dormir.
Exactement. La fièvre est un indicateur de sommeil aussi.
Ouais.
Hein? Parce que lorsqu'on est malade, eh bien, que dit notre organisme ? Stop. Il va monter en fièvre, mais stop, mais surtout va te coucher.
Ouais.
Hein? Cette fièvre, ben, va leur dire, la meilleure solution pour te soigner, c'est dodo les yeux.
D'accord.
Et le dodo les yeux, elles vont aller à l'extrême du dodo les yeux. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre systématiquement dans ce phénomène d'hibernation. C'est-à-dire qu'elles sont capables, à n'importe quel moment... Quelles que soient les conditions climatiques, si par exemple nous sommes là en ce moment avec un peu de soleil, mais les conditions ne sont pas très bonnes, si demain la température descendait à 12 degrés et on n'est pas loin à certains moments et qu'il y ait 20 cm de neige, eh bien elles vont se mettre dans cet état d'hibernation.
Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent se réparer par le sommeil.
Elles vont se réparer par le sommeil. Mais ça, c'est ce que nous faisons tous aussi.
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme maladie ?
Alors la maladie, ben, elle est typique à nous, le rhume. Elles attrapent la grippe. Elles ont du mal à supporter le mauvais temps, elles ont du mal à supporter la pluie, comme nous, ben, s'enrhument.
D'accord.
Et quand elles s'enrhument, même symptômes, fièvre.
Même en plein été, terrier.
Même en plein été, mais fièvre, nez qui coule, elles toussent, elles éternuent, elles ont les yeux qui pleurent.
Mmh.
Elles ont exactement les mêmes symptômes que nous. Et à partir de cet instant, il y a une seule et unique solution, c'est dodo les yeux.
Ah, c'est notre fête de la nature, ici, sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, à 1600 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence. Vous croyez tout savoir sur la marmotte? Bah, comme moi, je ne savais pas grand-chose. Et puis, on va poursuivre le voyage avec Christian Rias. Et puis, toujours, bah, nos invités, à savoir François Le Tourneux et Frédéric Danhé, jusqu'à la fin de cette heure. Musique, oui.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears
On va poursuivre notre route. C'était Dionne Warwick sur France Inter et nous, on la poursuivons avec nos marmottes, nos marmottas, marmottas. Oui. Ah, bah, tenez, je vous signale quand même, mais je crois que vous le savez déjà, que sur les grilles du Sénat, ça se trouve toujours à Paris au Luxembourg, il y a encore quelques abeilles là-bas, eh bien, vous avez une exposition montagne qui est superbe avec de très belles photos et nos amis de Terre Sauvage, évidemment, sont partenaires. On poursuit ce voyage dans les Alpes de Haute-Provence. L'histoire de la marmotte, ça continue.
Christian Rias, ouais. C'est extrêmement important parce que, voilà, moi je m'interroge en vous entendant, vous avez dit que ces animaux avaient une température de 36,8.
C'est pratiquement la nôtre.
70 pulsations minute, c'est aussi pratiquement la nôtre. Donc qu'est-ce que l'on peut rechercher d'un point de vue médical avec ces animaux? Parce qu'ils nous ressemblent, quoi. On a d'autres similitudes?
Ah ben, on a plus que les autres similitudes, hein, puisqu'elles ont le même nombre de chromosomes que nous. Elles ont un sang qui est pratiquement identique au nôtre et qui est même au universel. Donc,
attendez, c'est au universel.
Oui.
Elles peuvent être donneuses.
Elles pourraient être donneuses, ah oui. Sans aucun problème. Et elles ont le même nombre de globules rouges, le même nombre de globules blancs, le même nombre de plaquettes. Donc, c'est notre similitude. Tout simplement, on est reproduit en version quatre pattes.
C'est ça. Oui. Donc je suis une marmotte, je ne savais pas.
Voilà. Nous sommes des marmottes, tout simplement.
On a tous un peu en nous quelque chose de marmotte.
On a tous en nous quelque chose. Voilà, exactement. Ouais. Non, le seul problème qu'il y a, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'elle est malade, dans cette application de phénomène d'hibernation, ben nous, on pourrait la reproduire. Et on sait que le sommeil profond, enfin lorsqu'on met les malades en état de coma artificiel,
on va prendre par exemple les grands brûlés.
Oui. Les grands brûlés aujourd'hui, eh bien, au lieu de les mettre dans des comas artificiels, on va les descendre en température. Et en descendant cette température, le cerveau va donner ordre de réparer. Nous l'avons tous en nous.
Oui. Alors ça veut dire qu'on s'y intéresse d'un point de vue médical?
Bien sûr, au contraire, puisque... Là aussi, c'est un énorme problème, puisque il y en a qui ne sont pas contents, voyez, on baille.
Ah oui.
Il y en a qui ne seront pas contents, c'est que ce phénomène d'hibernation, ce n'est pas non plus le même coût qu'une maladie soignée au niveau médicamenteux.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous comprenez très bien. Voilà. Vous comprenez très bien.
C'est-à-dire que ces animaux que nous avons sous les yeux pourraient mettre à bas quelques pans de l'industrie pharmaceutique. C'est ça que vous nous dites?
Voilà, tout à fait.
Ah oui, ils ne se rendent pas compte là, du tout du danger potentiel.
Exactement, du danger potentiel.
Vous vous rendez compte, le CAC 40 là risque de se casser la gueule à cause de
ces... Exactement. Et oui, et malheureusement aujourd'hui, c'est ce qui est un petit peu malheureux. C'est pour ça que les avancées au niveau de la recherche vont lentement parce que on est aussi freiné par ce système-là.
Et ça se fait où, ça? Si on parle des grands brûlés, on peut penser à Lyon.
Lyon, l'hôpital Édouard Herriot, puisque ça, c'est une renommée. Après, sur Marseille, la Timone, eh bien, c'est les centres d'immunologie pour le sang, puisqu'aujourd'hui, elles sont atteintes d'une maladie qui, malheureusement, s'appelle le tourisme. C'est-à-dire que,
Alors ça, c'est intéressant, parce que moi
c'est plus que dramatique, même.
Oui, parce qu'en général, on se dit, c'est vrai qu'elle siffle un bon coup, on regarde le ciel, il y a un aigle.
Oui.
Bon. Prédateur normal qui vient.
Elle siffle pas, elle crie.
Ah.
Elle crie.
Ah,
elle
pardon.
Crie. Elle ne siffle pas.
Ah, pardon. Vous criez, les filles. D'accord.
Vous criez. Alors, on a pensé pendant très longtemps qu'elle sifflait pour une raison bien simple, c'est que lorsque il y a alerte, le guetteur va se mettre ce qu'on appelle en position de chandelle et il met les deux pattes devant la bouche. Et on a pensé pendant très longtemps
qu'elle sifflait comme. Sifflait. C'est d'accord.
Et en réalité, quand elle crie, ça fait caisse de résonance et ça réamplifie. Alors que lorsqu'elles sont en alerte, elles ont les pattes de devant baissées. Oui. Donc elles ne sifflent pas, elles crient.
Elle crie.
Lorsqu'elles crient qu'une seule fois, elles vont indiquer le danger.
Tiens. Et là, elles sortent toutes. Alors là, il y a eu plusieurs sifflets.
Alors, il y a plusieurs cris. En réalité, c'en est une seule qui crie. Et elle crie, et en fonction de ses cris, elle indique la distance, la rapidité et la nature du danger.
Donc éventuellement, c'est un touriste qui monte, là.
Ça peut être un touriste qui monte. Ça. Voilà, c'est un touriste qui va monter, mais ça peut être aussi un touriste qu'elles ont repéré avec un chien.
Ah, pas bon, là.
Oui. Là, c'est moins bon. Hein. Oui. De toute façon, il faut savoir aussi, et ça je le dis surtout pour les touristes, c'est que les chiens doivent être tenus en laisse. Les chiens ne sont pas là pour courir dans les trous et venir les déranger. D'ailleurs, certains chiens ont dû payer un lourd tribut, hein, parce que quand on voit les couteaux devant... Ils y laissent le museau. D'ailleurs, le renard s'y amuse pas. Donc là, elle informe aux congénères la nature, la distance et le danger.
Alors, vous me disiez donc que l'être humain est leur principal danger. Donc, bon, on parle de l'aigle, mais pourquoi l'être humain ?
Alors, dans l'ordre des prédateurs, avant tout, c'était d'abord l'aigle.
Oui.
Qui prélève à peu près un marmotton, je ne dirais pas par jour, mais presque, et quand il est assez petit, oui. Ensuite venait le renard, puis le loup, puis et tout. Mais aujourd'hui, ben, c'est l'homme. Parce que pour voir cet animal de plus près, qui est joueur, parce que quand vous avez pu le constater, il est là à l'écoute et tout, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne à manger.
Bon.
Et malheureusement, cet animal ne peut pas accepter le glucose.
Donc pas de sucre.
Pas de sucre.
Du tout.
Du tout.
Et les conséquences ?
Eh bien, les conséquences, c'est que lorsqu'il va découvrir le sucre, eh bien, il va tout simplement attraper une maladie qui, pour lui, est irréversible, qui s'appelle le diabète.
Ouais, mais parce qu'elle aime ça, l'appétence pour...
Elle aime ça, oui. Elle en devient accro sans vouloir.
D'accord.
Parce qu'elle a un pancréas qui ne fabrique pas le taux d'insuline correspondant à une quantité de glucose définie. C'est-à-dire que l'herbe qu'elle mange ne contient pas de glucose. Et à partir du moment où, malheureusement, elle va goûter ce glucose, elle va en devenir plus que dépendante.
Ouais.
Et elle en devient tellement accro qu'elle est diabétique en pratiquement 8 jours et diabétique irréversible.
Oui, ce serait un bonheur pour les gens et du marketing. Ils font ça avec les humains, il faut le dire.
Voilà. Oui. Et malheureusement, bien, dans le mois qui suit, elle en décède.
Et là, il n'y a pas de moyen de guérison
personnelle.
Il
n'y a pas de moyen de guérison.
Autant le rhume, la grippe, elles s'en sortent, mais pas
elles s'en sortent, là, elles ne peuvent pas faire face à la situation.
Ah, d'accord, ben, ça on ne savait pas. Il y avait de se dire que c'est l'être humain, donc ne donner jamais à bouffer au
monde. Ah non, mais et puis de toute façon, déjà, systématiquement, et ça, même les gens des parcs vous le disent, on ne nourrit pas les animaux sauvages dans la nature. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit sur certains reportages ou autres, et je râle là-dessus, des marmottes en train de manger des carottes, où on a instauré, malheureusement, des circuits où on peut venir les caresser et les nourrir.
Donc, c'est une espèce de mise à mort pratiquement assurée au bout d'un certain temps.
C'est une mise à mort assurée de temps en temps.
Christian, on revient donc sur cet aspect quand même médical. Donc, exactement, qu'est-ce que l'on recherche ? Est-ce que ce sera par rapport à notre sang ? Est-ce que ce sera par rapport donc à l'hivernation pour essayer de bien, encore mieux comprendre les mécanismes et de nous les appliquer ?
Bien sûr. Ben, le but, c'est d'essayer de comprendre justement jusqu'à quel point le phénomène d'hibernation va permettre d'être bénéfique pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait auto-réparer ?
Ouais.
On peut constater que les grands brûlés, quand on les plonge dans cet état de froid, eh bien, la peau va se régénérer.
D'accord.
Donc déjà, on évite une partie de limite de greffe de peau.
Ouais.
Nous sommes tous conçus de ce phénomène-là. Lorsqu'on se blesse, lorsqu'on se coupe, la peau va cicatriser. Elle va mettre plus de temps, pour une raison bien simple, nous sommes constamment actifs. Mais la peau va se réparer uniquement que quand on va dormir. Plus on va dormir, plus la réparation sera importante. Malheureusement, aujourd'hui, cet animal, le tourisme finit par le rendre, je dirais, presque menacé.
Ah oui, c'est là que ça fait du dégât.
Voilà, là, ça fait du dégât. Moi, là, vous voyez, je suis sur une colonie qui comprend 18 animaux. Malheureusement, depuis le début de l'hibernation, il y a eu des très longs week-ends. Malgré le fait de ma présence constate dessus, j'ai quand même eu 4 décès par diabète dans les adultes. Donc, j'ai déjà perdu sur les 12 animaux qu'il y avait adultes. J'en ai perdu 4, il m'en reste 8. Donc c'est déjà une colonie qui est en péril.
D'accord.
En plus, elle est en péril aussi par le fait qu'elle est très près des habitations.
Oui.
Donc la fréquentation, les gens viennent sans aucun problème. Et c'est ce que j'essaye justement à la sensibilisation de dire, bon, ne les nourrissez pas, venez dans les horaires parce que cet animal est joueur, il n'y a pas de problème, on l'aura. Mais aujourd'hui, cette colonie est en péril.
Oui.
Et pour qu'elle revienne à son chiffre global d'origine, c'est-à-dire des 18, parce que là, je tiens compte de la prédation et tout, il faudrait que pendant 15 ans, il n'y ait plus aucun touriste dans le secteur. Là, tu vois, elles vont rentrer dans le processus de la sieste.
Ah oui, bah oui, c'est l'après-midi donc.
Et oui, on arrive au moment où le soleil est le plus important et elles vont faire à peu près comme font la majorité des animaux, c'est-à-dire même tous les animaux, elles vont ce qui s'appelle chômer. Hein. Mais quand je dis chômer, c'est pas aller à Pôle emploi. Hein.
Non,
AUME, hein, c'est-à-dire elles vont tout simplement faire la sieste. C'est-à-dire qu'elles vont passer le plus gros de la chaleur, à l'abri, tranquillement, au frais. Il n'y a que l'être humain pour marcher en plein soleil. Hein.
Ben oui,
Eh ben oui, il n'y a que nous pour marcher en plein soleil. Grand merci à Christian Rias dans ce lieu superbe des Alpes de Haute-Provence. Donc nous étions à Chabanon. Je vous renvoie moi sur le site de CO2 Mon Amour. D'abord vous en avez l'habitude, vous pouvez donc bien sûr converser, mais aussi vous avez donc cette vidéo. Donc vous verrez Christian, vous verrez les marmottes. Voilà, pendant quelques minutes, nous avons mis donc tout ceci en ligne. Eh ben oui, vous avez un peu découvert là. Aussi François Le Tourneux, puisque vous êtes avec nous, sur les marmottes que vous connaissez bien pour autant. Hein, donc,
Bien, beaucoup moins bien que Christian Rias, mais on a un très bon exemple de l'endroit, d'un des cas de priorité pour nous. On parlait tout à l'heure d'érosion du tissu normal de la biodiversité.
Oui, comme un
chandail. Ces marmottes-là, personne ne leur fait de mal, il l'a dit. On essaye simplement, on les voit de trop près, on les embête, on les approche, on essaye de les nourrir, et insidieusement... Non pas par méchanceté, du tout. Il n'y a plus de méchance dans la nature, il n'y a plus personne qui déteste la nature. Mais il y a des gens qui, par inconscience, par méconnaissance du sujet, et heureusement que votre émission est là, qui par méconnaissance du sujet font des bêtises. Voilà. Alors, ça va nous permettre de reboucler avec la fête de la nature. Hein. La fête de la nature, elle est là pour ça, elle est pour qu'au moins une fois par an, des gens qui aiment ça, des gens qui connaissent ça, puissent vous montrer, vous expliquer comment ça se passe à côté de chez vous. Peut-être pour que vous arrêtiez de mettre des pesticides dans votre jardin, peut-être pour que vous fassiez attention à ce que vous semez comme graines dans votre pelouse, etc. Pour que vous vous intéressiez à tout ce que vous allez voir revenir de magnifique dès que vous commencerez à foutre la paix à la nature et à vous en occuper de manière positive.
Et cette année, c'est quand même dédié, on va dire, davantage du côté de l'eau. Là, on était sur la montagne, mais comme c'est les 40 ans du Conservatoire du Littoral, dont vous avez été aussi, vous, le président pendant 12 ans, donc on est au bord de l'eau, on est sur les lisières, et les lisières sont drôlement importantes.
Voilà, on a choisi le bord de l'eau parce que, en effet, la biodiversité, c'est pas une collection d'animaux, une collection de plantes, comme une arche de Noé où elles seraient posées les unes à côté des autres. C'est des relations, c'est une extraordinaire société dans laquelle on mange, on est mangé, on protège, on est protégé, et ainsi de suite. Et évidemment, la confrontation, elle se passe surtout sur les lisières. Quand les animaux de la forêt sortent se sécher, quand les chevreuils sortent se sécher dans les champs après la pluie, quand ils se remettent à l'abri du bruit, etc. C'est bien cette fonction de la lisière. Évidemment, la lisière entre ce qui se passe dans l'eau et ce qui se passe sur terre, elle est encore plus riche que beaucoup d'autres. Et on a par exemple beaucoup de sorties, Dieu merci, qui sont cette année sur la laisse de mer, c'est-à-dire ce petit cordon de dépôt que laisse la mer à chaque haute marée. Alors ces dépôts, on y voit beaucoup les bidons en plastique, les tongs et les casiers de marieurs. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi une quantité de débris organiques, d'algues. Alors évidemment, en Guadeloupe, quand vous avez des sargasses partout, vous trouvez que c'est un peu beaucoup. Mais toute cette matière vivante, elle est essentielle puisque vous le savez, Denis. L'ensemble des poissons qui sont pêchés en mer, ils sont pas nourris en mer. En général, ils sont élevés et nourris dans les estuaires, dans les parties où il y a justement de la matière organique, ce qui n'est pas le cas de la haute mer. Donc ce bord de l'eau, ces estuaires, ces rivières qui apportent les nourritures en mer, ils sont essentiels à la biodiversité globale. Donc on est très content que ça soit le thème. Mais bien entendu, comme les autres années, si on a envie, le jour de la fête de la nature, d'aller voir des orchidées sur des coteaux calcaires secs comme un coup de trique, on a le droit. Hein, ils sont en pleine fleur, les orchidées.
Bien sûr, c'est super. Frédéric Denré, ces lisières, on les connaît bien, on a bien compris que c'était là que se passaient donc ces fameux échanges. Et puis c'est là qu'on observe donc avec donc c'est plus que qu'un projet. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des moyens assez importants pour ces sciences participatives.
Oui, il y a un projet 65 millions d'observateurs qui a été lancé par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui est financé autour de 4 millions d'euros entre 2015 et 2018. Ce qui est pas mal. Il y a plus d'autre argent pour financer quoi que ce soit d'autre. Mais bon, au moins ça, c'est financé.
Oui, c'est vrai que la recherche est finie.
Les programmes de recherche financés par voilà, et on va en parler sur les sols. Non, ça entérine, ça officialise toute cette science participative dont on a parlé tout à l'heure. Le ministère avait financé pendant un moment des programmes qu'on appelle les programmes GESOL, c'est des programmes d'études des sols, des projets de recherche, et ce qui est apparu dans la restitution de cette année, ce sont des programmes de recherche, je pense à Greenov, je pense au programme de Daniel Cluzeau, qui mettent en relation directement, c'est de la science participative aussi, les chercheurs avec les agriculteurs, c'est-à-dire que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire, mettent un petit blouson et des bottes au-dessus de leur blouse blanche.
Ils vont compter les lombriques aussi.
Ils vont compter les lombriques, ça c'est Cluzeau, on fait compter les lombriques par le public.
public et ont fait compter les lombrics et d'autres indicateurs du sol par exemple, les champenois, les viticulteurs de Champagne. Moyennant quoi ce dialogue, pour ne parler que de ce programme, entre des chercheurs représentés par Daniel Cluzeau à l'INRA de Rennes et des viticulteurs champenois, ont abouti à une disparition quasi totale de l'utilisation du principal pesticide utilisé, qui était un nématicide. Voilà, les chercheurs, quand ils discutent avec les agriculteurs, ça fonctionne beaucoup mieux.
Et lorsque vous avez l'art qui s'y met aussi dans cette biodiversité, et ça peut donner ceci. Alors, on va faire connaissance avec Patrick Scheder. Patrick Scheder, bonjour.
Bonjour, Denis.
Alors, vous êtes un musicien depuis très longtemps, et puis vous avez créé la Musique au Jardin. Alors, Musique au Jardin, on va dire que c'est un festival qui est itinérant, qui est quand même sous l'égide de Jean-Marie Pell, de Pierre Rabhi, d'Edgar Morin. Donc ça doit bien nous faire 250 ans de sagesse réunis. Hein, bah oui, quand même. Et en fait, qu'est-ce que vous distillez de manière artistique avec la Musique au Jardin?
Eh ben voilà, l'idée, c'est en fait de faire passer des messages sur la nature, sur sa préservation, sur la biodiversité, en associant des musiques et des textes. Donc mon épouse Monique dit des textes, moi je joue du piano, donc c'est un peu dans l'idée du concert lecture, mais très particulier parce qu'on est dehors, au milieu des herbes hautes. Gilles Clément a fait une création végétale, on laisse pousser l'herbe, ensuite on met le public sur des bottes de paille, donc c'est très accessible finalement, et on s'adresse au grand public sur des thèmes qui sont plutôt assez pointus, comme le zéro phyto, la biodiversité elle-même, etc. Et avec une stratégie, notamment sur les textes, qui est de rapprocher des textes récents, alors qui peuvent être, que vous disiez, de Jean-Marie Pelt ou de Pierre Rabhi, avec des textes plus anciens, par exemple de Georges Sand, qui dès les années 1860 faisait l'éloge des mauvaises herbes, qui protestait contre la forêt de Fontainebleau qu'on voulait lotir, en disant qu'il fallait finalement préserver le patrimoine végétal, comme les monuments nationaux. Et ce type de texte était à l'origine de la création notamment du parc de Yellowstone. Donc l'art finalement et puis la défense de la nature ont toujours été très très liés. Il y a des antécédents extraordinaires.
Alors ça s'appelle Musique au Jardin. Vous serez à Grenoble à 16h donc aujourd'hui ce samedi, dimanche et lundi à Branferré en Bretagne. Et puis donc il y a le site de CO2 Mon Amour. On vous souhaite le meilleur Patrick et puis à très bientôt. Hein.
Merci, à très vite Denis.
Ben voilà, c'est pas mal ce mélange. Oui, là vous avez à la fois du piano et des coups de bûcheron, de bûcheronnage, vous voyez. Mais c'est pas que ça, donc Musique au Jardin. Juste très très vite, François Le Tourneux, on l'a bien compris, se contenter d'une politique de conservation, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant.
Ben non, parce que si on dit qu'on va essayer de protéger ce qui existe et qu'on va pas y arriver à 100%, ça veut dire qu'on va perdre 10%. Donc on serait, si on s'en contentait, dans une politique défaitiste et une politique de repli un peu désespéré dans lequel on essaye de pas se replier trop vite. Donc il est très important de travailler à voir si on peut pas réparer ce tissu vivant de la planète, si on peut pas s'y mettre tous, si on peut pas le traiter de manière systémique, parce que dans ce qu'a dit Frédéric sur les sciences participatives, il y a une chose extraordinaire. C'est que jusqu'à présent, la science, ça a été quelque chose d'analytique. Mmh. On a cherché à simplifier. Et voilà que maintenant, on se dit qu'on va recomplexifier notre relation au réel, qu'on va se reposer les questions complexes, et à mon avis, il n'y aura pas de solution autrement.
Merci beaucoup, François Le Tourneux. Merci à Caroline Debray, à Christophe Imbert, Albert Houck, Christophe qui réalisait donc toute cette émission, à Ludovic Asselot et Lucas Vaillant, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit non pas les marmottes, mais le site de CO2 Mon Amour, sur lequel vous accédez, vous en avez l'habitude, franceinter.fr, etc. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute avec une petite ronde de camarades journalistes, avec plein de sujets que nous allons mettre sur la table.